Radio Kapi. Oh, Kapi.
Quelques heures de la signature à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les regards des Congolais sont tournés vers Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Quelles sont les grandes lignes de cet accord? Réponse tout à l'heure avec notre envoyé spécial à Washington, Alain Irung. La desserte en électricité et les projets hydroélectriques en RDC ont dominé la plénière d'hier au Sénat. Suite à une question orale du sénateur Janvier Moucha, le ministre Molendo Sakombi a été interrogé sur les investissements prévus pour la SNEL. Notre invité est Bernard Danyangi, directeur exécutif de l'organisation Wokovu Way, partenaire de l'OMS, qui vient de former à Goma une cinquantaine d'acteurs humanitaires pour renforcer la lutte contre les abus et l'exploitation sexuelle dans les zones touchées par les déplacements. Bonjour à tous. Les regards des Congolais sont tournés vers Washington où les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent dans quelques heures entériner l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin 2025 sous la médiation américaine. Mais quelles sont les grandes lignes de cet accord? La réponse avec Alain Hung, envoyé spécial de Radio Kapi à Washington.
Le texte de l'accord comprend quelques dispositions principales. C'est par exemple le respect de l'intégrité territoriale de la RDC par le désengagement des forces, c'est-à-dire la levée des mesures défensives du Rwanda. Quant au respect de l'intégrité territoriale du Rwanda, cela passe par la neutralisation des FDLR par la RDC. D'autres dispositions concernent la cessation des hostilités. Ici, les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties acceptent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Il y a aussi le désengagement et le désarmement des groupes armés non étatiques, l'intégration conditionnelle de ces groupes et la création d'un cadre de coopération économique régionale entre Kinshasa et Kigali. L'accord prévoit en outre la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, incluant le concept des opérations CONOPS, un cadre d'échange de renseignements négociés à Luanda en octobre 2024. Depuis Washington DC, Alain Rungmouchige, Radio Kapi.
Retour ici au pays. Quelle est la situation à Kamanyola, dans le sud Kivu, c'est jeudi. Selon des témoins sur place, des détonations d'armes lourdes sont entendues depuis ce matin à partir des montagnes surplombant les escarpements de Ngomou et Mulengezi. Bilan des affrontements entre les FARDC et les éléments de l'AFC 123 qui s'affrontent depuis mardi. 7 morts et 6 blessés déjà enregistrés dans les institutions hospitalières de Kamanyola et la notabilité locale de cette entité située dans le territoire de Walungu le long de la nationale numéro 5 sur l'axe Bukavu-Uvira affiche son inquiétude. Reportage Élisée Chikota.
Les informations qui nous parviennent des Kamanyola pour l'instant sont contradictoires. Certaines font état du contrôle partagé de la cité entre les belligérants. D'autres déclarent plutôt que Kamanyola serait passé entièrement entre les mains des coalitions FARDC-Wazalendo et l'armée burundaise. Toutefois, nos sources sont unanimes quant aux fortes détonations d'armes lourdes entendues à partir des montagnes qui avoisinent la cité de Kamanyola. Des sources hospitalières à Kamanyola font état de 7 morts et 6 blessés identifiés depuis le début des combats. Autre conséquence de ces combats, la population civile fuit. Certains traversent la frontière de Bugarama vers le Rwanda, tandis que d'autres se terrent dans leur maison. Entre-temps, toutes les activités socio-économiques sont paralysées, notamment les écoles et les marchés.
Dans la ville de Beni, des centaines d'étudiants de l'université chrétienne bilingue du Congo ont été sensibilisés mercredi aux dangers de violences numériques. Cette activité rentre dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basée sur le genre. Les étudiants ont pris l'engagement de sensibiliser à leur tour leur père. Marc Maroufimbo nous en dit plus.
Les étudiants affirment avoir beaucoup appris sur les violences sexuelles et basées sur les genres avec un accent sur les violences numériques. Suzanne Kaloumé.
Ce qui a été tellement bénéfique pour nombreux, parce que moi personnellement j'ai appris des nouvelles connaissances que je n'avais pas, beaucoup de formations. Tout d'abord par rapport aux violences numériques, je pense qu'il y a autant de personnes qui ne sont pas au courant et c'est une réalité que nous vivons dans la communauté. Il y a certaines personnes qui subissent ces genres de violences et on nous a parlé des différentes lois qui condamnent ces genres de violences. Donc je sais qu'au moins il y a la possibilité d'aller pleine par rapport à ce genre de violences et c'était quelque chose de bénéfique pour moi personnellement.
Soki Chabani, victime des violences numériques, dit être désormais en mesure de lutter contre cette nouvelle forme de violence basée sur le genre.
Cela m'est déjà arrivé une fois avec des comptes Facebook. Vous pouvez voir sur mon compte des publications dont j'ai pas vraiment posté, mais j'avais compris que c'était une personne qui avait piraté mon compte. Donc, il ne faut pas garder des contenus qui ne sont pas éthiques. Veillez toujours mettre des choses qui vont pas porter à l'atteinte à votre dignité dans nos téléphones ou du côté numérique.
Signalons que cette sensibilisation de la police de la MONUSCO UNPOL va se poursuivre dans d'autres institutions universitaires de la place dans les prochains jours. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
La problématique de desserte en électricité et les projets hydroélectriques en RDC au cœur du débat au Sénat au cours de la plénière conduite hier mercredi par le président Jean-Michel Samaloukoundé. C'est à la suite d'une question orale avec débat du sénateur Janvier Mouicha Kassiwa adressée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Molendo Sakombi. L'auteur de la question interroge les ministres notamment sur l'existence d'un budget d'investissement pour le renouvellement des équipements de la Société nationale d'électricité, SNEL. Grâce à Mzati nous fait le point.
Dans sa démarche, le sénateur Janvier Mouicha rappelle les dispositions de l'article 138 de la Constitution et de l'article 160 du règlement intérieur du Sénat qui déterminent les moyens de contrôle parlementaire sur le gouvernement. L'élu du Nord Kivu interroge sur les causes des coupures intempestives du courant électrique à Kinshasa et dans d'autres régions du pays. En réponse, le ministre Molendo Sakombi affirme que la politique nationale des dessertes en électricité s'inscrit dans la vision du président de la République et dans les programmes d'action du gouvernement. Validée en 2022, cette politique a été actualisée en octobre 2025 pour intégrer des évolutions réglementaires importantes telles que l'adoption du compact énergétique et la révision de la loi sur l'électricité. Le ministre précise en outre que cette politique repose sur deux objectifs, renforcer l'offre d'électricité et assurer l'indépendance énergétique du pays tout en visant un accès universel à l'électricité d'ici 2040 avec un objectif intermédiaire de 62% d'accès d'ici 2030. Au cours du débat, plusieurs sénateurs ont exprimé leurs préoccupations concernant la desserte en électricité dans leur province. Ainsi, un délai de 24 heures a été accordé au ministre pour répondre aux questions soulevées.
Province du Lualaba, des agents de l'entreprise Kamoto Cooper Company, KCC, sont descendus dans la rue hier mercredi à Kolwezi. Ils dénoncent la montée de l'insécurité due aux attaques et intrusions récurrentes des exploitants miniers, artisanaux, clandestins sur le site d'exploitation de KCC. Une situation qui perturbe l'exploitation minière, s'indignent ces agents. Ils ont déposé un mémorandum au gouvernorat du Lualaba. Le point avec Paula Munanga.
Ces agents, des centaines au total, portant des tenues de travail et scandant des chansons, ont sillonné quelques artères de la ville de Kolwezi avec comme point de chute le gouvernorat des provinces. Sur les affiches brandies par les manifestants, on pouvait lire « Intersyndical KCC-SA, nous disons non à la spoliation des concessions minières KCC-SA » ou encore « Nous disons zéro creuseur dans les mines de KCC-SA ». D'après les manifestants, des creuseurs artisanaux font des intrusions régulièrement sur les mines de Kov et Machamba appartenant à l'entreprise KCC filiale du groupe Glencore. Denis Lumande est le président de la délégation syndicale de KCC.
Nous connaissons l'intrusion de creuseurs dans nos sites. Les véhicules sont caillassés, nous sommes blessés, nous avons perdu certains de nos membres qui ont été tués par ces creuseurs-là. Nous avons plusieurs fois écrit, on a fait des mémos aux autorités de la ville, même jusqu'au niveau national. Mais malheureusement, jusque-là, les autorités n'interviennent pas efficacement.
La gouverneure du Tanganyika Fifi Masuka a reçu les agents des KCC et leur promet un soutien total pour sécuriser les sites et protéger ses investissements. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Quittons le Lolaba pour l'Ituri où près de la moitié de 880 élèves inscrits à l'école primaire Saint-Luc située dans le site des déplacés de Kigonze à Bounia ont abandonné les cours depuis la semaine dernière en cause l'incapacité de leurs parents à payer les 6000 francs congolais exigés chaque mois pour soutenir les enseignants. Reportage de Jean-Claude Kidile.
Selon la direction de l'école, la majorité des parents déjà éprouvés par la précarité dans ce site de déplacés ne parviennent plus à réunir cette somme. Résultat, les salles se vident et de nombreux enfants se retrouvent de nouveau livrés à eux-mêmes. Benoît Loti est le directeur de cette école.
Les uns sont devenus enfants de la rue, c'est-à-dire chaque matin ils se lèvent pour aller à la ville pour faire des petits boulots. Les autres sont restés à la maison avec leurs parents et n'ont pas les moyens de payer la collation.
Le coordinateur provincial de la protection civile, Robert Ndialonga, s'inquiète d'une possible aggravation de la situation. Il alerte sur le risque de fermeture totale de l'école car même les 8 enseignants pris en charge par le gouvernement menacent de suspendre leurs activités. Ils accusent 3 mois d'arriérés de salaire.
Lorsque ces élèves abandonnent le cours, il y a risque qu'on puisse les retrouver dans les différentes artères de la ville de Bounia et pour être exposé à des cas de menaces ou d'incidents de protection.
Pour lui, une intervention rapide du gouvernement s'impose pour éviter d'hypothéquer l'avenir de ses enfants déjà fragilisés par le déplacement et la pauvreté. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, 19 aires de santé relevant de la zone de santé de Pinga sont actuellement en rupture de stock de médicaments. Cette situation résulte de l'instabilité sécuritaire et de l'enclavement de la zone qui bloque tous les axes d'approvisionnement, a indiqué le médecin chef de zone. Ce dernier précise que ces contraintes empêchent les partenaires d'appui d'accéder à la zone depuis plusieurs mois, compliquant ainsi la prise en charge de malades, notamment des milliers de personnes déplacées. Bernardine Diambou pour les détails.
Les postes de santé de Kalinga, situés dans l'aire de santé de Buhimba, à la limite avec celle de Mpeti, à titre d'exemple, est en rupture de médicaments depuis 6 mois. Selon le médecin chef de zone, cette structure accueille pourtant de nombreux patients, dont des déplacés en provenance des localités de Balinda et Banakindi, fuyant les affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo. Le docteur Ngango Kubuya Placide attribue cette situation à l'insécurité persistante, à l'inaccessibilité de la zone et à l'absence de partenaires d'appui.
La zone de santé actuellement est enclavée. La partie Mueso est totalement inaccessible, mais aussi vers Masisi-Nyabiondo. La route est totalement délabrée. C'est ainsi que l'approvisionnement en médicaments pose problème dans la zone de santé. Actuellement, la zone n'a aucun partenaire au niveau de Pinga.
Ces responsables sanitaires signalent une recrudescence des cas de paludisme et de diarrhée, touchant particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Ils plaident pour un approvisionnement urgent en médicaments dans l'ensemble des 19 aires de santé, y compris l'hôpital général de référence de Pinga, afin de sauver des vies. Toutefois, il assure que les démarches sont en cours pour soutenir les structures sanitaires en difficulté.
Dans la province du Tanganyika, 6 personnes, dont 2 militaires de la force navale, ont été tuées par balle par des bandits armés dans la nuit de mercredi à ce jeudi dans la ville de Kalemi. Le coordonnateur de l'association Umoja Ninguvu déplore ce regain de la criminalité. Nathan Mugisho revient sur ce qui s'est passé cette nuit. Ses propos sont recueillis par Paul Amunanga.
Vers 3h du matin, des balles ont crépité et ça fait panique sur toute l'étendue de la commune Lukuga parce qu'il s'agit du quartier Kaïté sur l'avenue Basilique où les bandits ont réussi à entrer dans les domiciles d'un compatriote répondant au nom de Mungwa Konkwa et ils ont tiré sur 4 personnes dont 3 sont décédées sur place, des femmes et un enfant. Et son épouse qui avait reçu des balles était vite amenée à Undugu sans hospitalier et à ses centres de santé, la dame a aussi succombé de ses blessures parce que c'était trop grave. Au total, nous avons compté 4 décès par ces coups de balle. Cependant, quand on est parti partis sur le lieu des drames pour constater et compatir avec la famille, nous avons appris aussi par malchance que des militaires du camp militaire marin qui étaient aussi sur la route ont été tués et les corps étaient là. Donc, au total, nous avons compté pour la nuit d'aujourd'hui, à cause de l'insécurité grandissante dans la ville de Kalemi, 6 personnes tuées.
Actualité internationale.
Guerre en Ukraine. La Turquie appelle au respect du droit international après plusieurs attaques contre des cargos au large des côtes turques. 3 navires russes, dont 2 pétroliers, ont été attaqués depuis le vendredi dernier dans les eaux de la mer Noire. Une escalade dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui inquiète tout particulièrement la Turquie, restée proche de 2 pays. La Roumanie et la Bulgarie, également pays membres de l'OTAN et riverains de la mer Noire, se sont jointes à la appel d'Ankara.
L'invité.
Notre invité est le directeur exécutif de l'organisation Wokovu Way, qui signifie la voie du salut en français. Cette organisation, en partenariat avec l'OMS, a organisé du lundi 1er au mercredi 3 décembre à Goma une formation à l'intention d'une cinquantaine d'acteurs humanitaires. L'objectif étant de renforcer la réponse face aux risques d'abus et d'exploitation sexuelle perpétrés par certains agents humanitaires, lesquels affectent gravement les personnes déplacées et celles retournées en territoire de Nirangongo, Masisi et Rutshuru. Pourquoi cette formation, suivant Alain Bagoula dans cet entretien avec Bernard Danyangi.
Monsieur Bagoula, Alain, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Pour cette formation sur l'impact des abus et exploitation sexuelle dans ce contexte ici de crise humanitaire dans notre région, vous êtes parti de quel constat?
Nous sommes partis du constat où il y a eu des mouvements de déplacés vers la ville de Goma, les personnes qui venaient du territoire de Rutshuru, Masisi, mais aussi une partie du territoire du Sud Kivu au niveau de Calais. Toutes ces personnes qui se sont déplacées vers la ville de Goma ont été obligés à retourner dans leur milieu d'origine. Il y a ceux qui sont restés dans la ville, dans les familles d'accueil, alors qu'ils continuent à bénéficier de certaines aides des acteurs humanitaires. Et ces aides-là, il y a des humanitaires qui font des dérapages et qui conditionnent les aides par rapport au sexe. Et ça déjà entrave la communauté est frustrée et les personnes sont contraintes à le faire par rapport à leur vulnérabilité, ce qui pousse à certaines conséquences sur la santé mentale de ces populations-là. Et c'est cet constat qui nous a poussé à identifier certaines organisations humanitaires qui participent dans les réseaux PCA. PCA, c'est la prévention des exploitations et abus sexuels. Voilà, alors toutes ces organisations qui participent dans ces réseaux-là, nous sommes en train de les former et les orienter comment prendre en charge les bénéficiaires sans autant conditionner les aides.
Et ce constat-là a été fait dans le cadre d'une étude qui a déjà été menée ou bien c'est une étude qui est en cours?
Alors nous, en tant qu'organisation Okovwe qui est membre de l'interagence PCA, la coordination au niveau provincial, nous avions mené une étude des constats sur terrain. Nous avons trouvé que c'était nécessaire d'impliquer d'autres acteurs pour que ces études-là soient amplifiées dans tous ces territoires qui sont touchés par la crise humanitaire. Parce que à nous seuls, on ne peut pas être partout au même moment, bien qu'on a des représentations dans ces différents territoires et zones de santé où nous travaillons. Mais si nous impliquons d'abord les personnes de première ligne sur les plans réponses, nous pourrions capitaliser et faire une bonne étude qui pourra être chiffrée et peut-être publiée par l'interagence pour que ça soit un soubassement pour les agents humanitaires qui viendront intervenir dans les zones affectées par la crise humanitaire.
Là, vous ciblez quelles entités?
Alors, nous ciblons 3 territoires, mais avec beaucoup de zones de santé. Parce que là où il y a aide humanitaire, c'est là où nous allons faire les études et proposer des réponses par rapport à ces fléaux qui gangrènent la communauté. Notamment, nous avons ciblé Masisi, la zone de santé de Kiroche, la zone de santé de Mweso, mais aussi voir si on peut aller jusqu'à la zone de santé de Masisi. À Rutshuru, bon, toute la zone de santé de Rutshuru, nous l'avions ciblé, la zone de santé de Nyiragongo. Bon, sans oublier aussi une partie de Goma au niveau de Karisimbi, où il y a des déplacés qui sont dans les familles d'accueil au niveau de Mugunga vers Lushagala. C'est là que nous avions d'ailleurs commencé l'étude, parce que nous avions une clinique mobile qui fonctionnait là-bas.
Et ce que vous attendez des participants, c'est quoi?
Nous attendons à des dimensions. D'abord, la compréhension de la thématique, la matière qui sera donnée, qu'elle soit vraiment comprise et intégrée dans leur politique. Nous avions remarqué aussi qu'il y a plusieurs organisations nationales et locales qui n'ont pas la politique sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux bénéficiaires. Tout ça, ce sont des valeurs que nous allons inculquer dans les organisations, mais aussi notre dimension. À nous seuls, on ne peut pas arroser toute la partie Est, mais s'il y a des organisations qui intègrent des politiques, qui mettent vraiment en action tout ce qui sera comme outil partagé durant les 3 jours de formation, ça pourra diminuer tant soit peu les différents dérapages, mais aussi il y a des organisations qui n'ont pas une capacité d'encadrement des victimes. Tout ça, ça va nous aider à créer une synergie. Comme ça, tant soit peu, on pourra réduire les exploitations, abus, harcèlement faits aux bénéficiaires par les humanitaires.
Monsieur Bagoula, merci.
Merci beaucoup, cher journaliste.
Ce journal est fini. Il a été coordonné par Élisée Chikota, mis en onde par Alain Ngoy et présenté par Jocelyne Moussaoupondé sous la supervision de Lievin Mbuinga. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.